Certains ne participent jamais à l'événement. La vie leur arrive tout simplement. Ils se maintiennent plus ou moins à force de persistance bornée et résistent avec rage ou violence à tout ce qui pourrait les arracher à leurs illusions dépitées de sécurité. Alma Mavis Taratsa. D'avant en arrière, d'arrière en avant, toute la journée, Odrad avait fait défiler ses dossiers comme, inquiète, indécise, à la recherche de quelque chose. D'abord celui de Sital, puis du jeune Teg, toujours là-bas en compagnie de Duncan et de Mirabella. Puis elle s'était postée devant une fenêtre, le regard perdu, songeant au dernier rapport que Burtzmali avait expédié de Lampada. Quand allait-on pouvoir tenter de rétablir la mémoire du Bachar? Le Gola obéirait-il quand il serait en possession de tous ses souvenirs originaux? Pourquoi n'ai-je plus de nouvelles du Rabbi? Faut-il amorcer la procédure de l'extremis progressiva, le partage entre nous poussé au maximum? L'effet sur le moral serait dévastateur. Les dossiers continuaient de se projeter au-dessus du plan de travail de son bureau, tandis que ses collaboratrices et conseillères entraient et sortaient sans cesse. Indispensables interruptions, signer ceci, approuver cela, diminuer la dose de mélange pour tel groupe. Bayonda était là, assise devant la table. Elle avait renoncé à demander à Odrad ce qu'elle cherchait et se contentait de l'observer à sa manière particulière, sans scier, implacablement. Leur discussion avait porté sur le risque de voir ressurgir l'influence maligne du tyran au cas où de nouvelles populations de vers des sables seraient implantées dans la dispersion. Ce rêve sans fin contenu dans chaque rejeton du ver n'avait jamais laissé d'inquiéter Bey. Mais les seuls chiffres de population indiquaient assez que l'emprise du tyran sur leur destinée appartenait bel et bien au passé. Tamalan était entrée quelques instants avant pour demander un renseignement à Bayonda. Celle-ci, forte de statistiques toutes fraîches en provenance des archives, s'était lancée dans un long discours sur les mouvements migratoires du Bene Gesserit et les conséquences sur l'état de leurs ressources. Odrad regarda par la fenêtre, tandis que le soir tombait. L'obscurité s'installait par paliers presque imperceptibles. En même temps, au loin, des lumières apparaissaient, celles des plantations. Elles avaient dû être allumées beaucoup plus tôt, mais Odrad ne pouvait s'empêcher d'avoir le sentiment que c'était la nuit qui créait les lumières. Certaines s'éteignaient occasionnellement tandis que les gens se déplaçaient dans leurs habitations. Pas de présence humaine, pas de lumière. Ne gaspillons pas l'énergie. Les lumières clignotantes retinrent son attention quelques instants. Variation sur la vieille question à propos de l'arbre qui s'abat dans la forêt. Fait-il du bruit si personne n'est là pour l'entendre? Odrad était plutôt du côté de ceux qui disaient que les vibrations existaient, qu'elles soient enregistrées ou non par un système sensoriel. Y aurait-il des appareils sensoriels secrets chargés de suivre notre dispersion à la trace? Quelles nouvelles techniques et inventions les premiers dispersés utilisent-ils sur nous? Bayonda dut estimer que le silence avait assez duré car elle déclara « Vos vibrations d'inquiétude sont perceptibles dans le chapitre tout entier d'art. » Odrad accepta cela sans commentaire. « Quelles que soient vos intentions, on les interprète comme de l'indécision. » poursuivit Bayonda. Comme sa voix est attristée, se dit Odrad. Les groupes importants sont en train de discuter de votre remplacement. Les rectrices préparent un vote.
Seulement les rectrices?
Dar, est-il vrai que vous ayez fait l'autre jour un grand signe de main à Praska en lui disant qu'il était merveilleux d'être en vie?
C'est exact.
Mais que cherchez-vous donc?
Simple remise en question. Pas de nouvelles de Dortoujla?
Vous avez dû demander ça une bonne douzaine de fois aujourd'hui,
fit Bayonda en agitant la main vers le bureau d'Odrad.
Vous ne cessez de vous repasser le dernier rapport que Burtzmali nous a fait parvenir de Lampada. Quelque chose nous aurait-il échappé?
Pour quelle raison nos ennemis s'agrippent-elles à Gameux? C'est au Mentat que je pose la question.
Les données que je possède sont insuffisantes, vous le savez bien.
Sans être Mentat, Burtzmali nous a brossé un tableau saisissant des événements qui se sont déroulés là-bas, Bey. Mais je me dis qu'après tout, c'était le meilleur disciple du Bachar. Il est normal qu'il fasse preuve des mêmes qualités que son maître.
Dites-le sans détour, Dar. Que voyez-vous dans ce rapport de Burtzmali?
Il comble simplement un vide. Pas complètement, mais... C'est fascinant cette manière qu'il a de se référer sans cesse à Gameux. De nombreuses forces économiques y ont établi de solides liens. Pourquoi ces liens n'ont-ils pas été brisés par nos ennemis ?
Elles évoluent dans le même système, de toute évidence.
Et si nous lancions une attaque d'envergure contre Gameux ?
Personne n'aime traiter en affaires dans un environnement dangereux. C'est ce que vous voulez dire ?
En partie.
La plupart des forces adhérant à ce système économique chercheraient à aller s'établir ailleurs, ce qui signifie une autre planète, avec une autre population soumise.
Pour quelle raison ?
Pour que leurs prévisions soient plus sûres. Naturellement, leur défense serait renforcée.
Cette alliance dont nous présumons l'existence, Bey, elle redoublerait d'efforts pour nous localiser et nous détruire.
C'est certain.
Ce commentaire laconique de Bayonda obligea les pensées d'Odrad à se tourner vers l'extérieur. Elle laissa porter son regard vers les lointains sommets couronnés de neige qui scintillaient à la lumière des étoiles. Les vaisseaux ennemis surgiraient-ils de cette direction ?
L'impact d'une telle pensée aurait pu déprimer un psychisme moins fort. Mais Odrad n'avait besoin de nulle litanie contre la peur pour conserver toute sa tête. Elle connaissait une meilleure formule.
Regarde tes terreurs en face, ou elles grimperont dans ton dos. C'était une attitude on ne peut plus directe. Les choses les plus terrifiantes de l'univers avaient leur origine dans un cerveau humain. Le cauchemar, le cheval blanc de l'extinction du Bene Gesserit, avait une forme à la fois mythique et réelle. Les furies à la hache pouvaient frapper aussi bien la chair que l'esprit, mais on ne pouvait fuir cette erreur mentale. On les regarde en face. Qu'affrontait-elle dans cette obscurité ? Non pas la furie sans visage à la hache, non pas la chute dans l'abîme inconnu, les deux lui étant visibles grâce à son petit talent, mais les bien réels honorés matriarches et leurs éventuels alliés.
Et moi, je n'ose même pas utiliser le peu de prescience dont je suis capable pour nous guider. Je pourrais, si je le faisais, bloquer notre futur sous une forme immuable.
Ce qu'ont fait Mouad Dib et son tyran de fils, qui n'a pu nous tirer de là qu'au prix de 35 siècles d'efforts.
Des lumières en mouvement à une distance moyenne attirèrent l'attention d'Odrad. Des horticulteurs qui travaillaient encore, taillant leurs vergers comme si ces vénérables arbres allaient vivre éternellement. La ventilation apportait une faible odeur de fumée provenant des feux où étaient brûlées les branches coupées. Toujours très attentifs à ce genre de détails, les jardiniers du Bene Gesserit. Jamais ils ne laissaient traîner du bois mort susceptible d'attirer des parasites qui se seraient ensuite attaqués aux arbres vivants. Leurs vergers étaient propres et nets. Ils savaient planifier, préserver leur habitat.
Le moment présent fait partie de l'éternité.
Ne jamais laisser du bois mort ? Gameux pouvait-elle être considérée comme du bois mort ?
Que trouvez-vous donc de si fascinant dans le spectacle de ces vergers ?
Voulut savoir Bayonda. Odrad lui répondit sans se retourner. Il me requinque. L'avant-veille seulement. Elle était allée faire un tour là-bas dans la nuit froide et vivifiante. Une brume légère flottait au ras du sol. Sous ses pieds, les feuilles bruissaient et laissaient une faible odeur de compost aux endroits où les rares pluies avaient trouvé un creux pour y stagner au chaud. C'était une odeur de marécage plutôt agréable, les ferments habituels de la vie, même à cet humble niveau. Au-dessus d'elle, les branches dépouillées se découpaient contre le ciel étoilé. Plutôt déprimant, à vrai dire, en comparaison du printemps ou de la saison des moissons. Mais magnifique dans son mouvement. La vie, une fois de plus en suspens, attendant le moment d'agir.
« Vous n'êtes pas préoccupé au sujet des rectrices ?»
demanda Bayonda. « Comment voteront-elles, Bey ?»«
Ce sera très serré. »«
D'autres les suivront ?»
Vos décisions sont critiquées. Les conséquences.
Bey avait l'art de mettre une grande quantité de données en peu de mots. La plupart des décisions prises au Bene Gesserit évoluaient au sein d'un triple labyrinthe. Efficacité, conséquences et, point vital, qui sera capable d'exécuter les ordres? Il fallait assortir la personne et l'action avec le plus grand soin et le plus grand souci des détails. Ce qui exerçait une lourde influence sur l'efficacité qui, à son tour, gouvernait les conséquences.
Une mère supérieure compétente devait être capable de sortir en quelques secondes de ces labyrinthes de décision.
C'était alors l'euphorie au secteur central. Les regards brillaient, la rumeur circulait de bouche à oreille. Elle a agi sans aucune hésitation. Cela instaurait la confiance chez les acolytes et autres novices.
Les révérendes mères, par contre, et tout spécialement les rectrices, attendaient de se trouver en mesure d'évaluer les conséquences. Odrad s'adressa à son reflet sur la vitre autant qu'à Bayonda.
Même la mère supérieure doit pouvoir prendre son temps.
Mais qu'est-ce qui vous met donc dans ces états?
Préconisez-vous la plus grande rapidité d'action, Bey?
Bayonda se laissa aller en arrière dans son fauteuil, comme si Odrad venait de la pousser.
La patience est une chose extrêmement difficile à pratiquer ces temps-ci, reprit la mère supérieure. Mais le choix du moment propice influence grandement mes options.
Que comptez-vous faire de notre nouveau Teg? Voilà la question à laquelle vous devez répondre.
Si nos ennemis se retiraient de Gameux, où iraient-elles, Bey?
Vous voudriez les attaquer là-bas?
Juste les secouer un peu.
Jeter de l'huile sur un feu dangereux?
Il nous faut un nouveau levier de négociation.
Les honorés matriarches ne négocient jamais.
Mais ce n'est pas forcément le cas de leurs alliés.
À votre avis, où se replieraient-elles?
Sur Jonction, par exemple.
Qu'y a-t-il de si intéressant sur Jonction?
Les honorés matriarches y sont basés en force. Et notre bien-aimé Bachar conservait un dossier mémoriel des lieux dans son adorable petite cervelle de Mentat.
Oh!
C'était un soupir autant qu'une réponse. Tamalan entra à ce moment-là et resta silencieuse et immobile, jusqu'à ce que les deux femmes lui accordent leur attention.
« Les rectrices soutiennent la mère supérieure, » dit-elle en levant un doigt crochu. « À une voix près !»«
Dites-moi, Tamalan, » fit Odrad en soupirant, « cette rectrice que j'ai interpellée dans le couloir, Praska, comment a-t-elle voté ?»«
En votre faveur !»
Odrad adressa un sourire bref à Bayonda.
« Prenez vos dispositions pour faire partir des espions et des agents secrets, Bey. Nous devons pousser les furies à discuter avec nous sur Jonction.
D'ici demain matin, elle aura déduit tout mon plan. »
Quand Bayonda et Tamalan furent sortis en se parlant à voix basse d'un ton inquiet, Odrad quitta à son tour le bureau par le petit couloir qui conduisait à ses appartements privés.
Il y avait là les acolytes de garde habituels et quelques révérendes mères de sa suite. Certaines acolytes lui souriaient, les résultats du vote des rectrices étaient donc arrivés jusqu'ici.
Une nouvelle crise était surmontée.
Odrad traversa le salon jusqu'à la cellule où se trouvait son lit. Elle s'y étendit tout habillée. Un seul brilleur baignait la petite pièce d'une pâle lumière jaune. Le regard d'Odrad se porta de la carte du désert au tableau de Van Gogh, avec son cadre et sa protection transparente, accrochée au mur au pied du lit.
Maison à Cordeville.
Une meilleure carte de géographie que celle qui représente la progression du désert, songea-t-elle.
Continue de me rappeler, Vincent, l'endroit d'où je viens et ce que j'aurai peut-être encore à faire.
Cette journée l'avait vidée de ses forces, elle avait dépassé le stade de l'épuisement pour se retrouver dans les limbes où l'esprit tourne en cercle de plus en plus serré à la poursuite de lui-même.
Les responsabilités.
Elle la cernait de partout, et elle savait qu'elle n'était jamais aussi désagréable que quand les devoirs l'assaillaient, la forçaient à dépenser ses énergies juste pour maintenir un semblant de sérénité dans son comportement. Cela n'a pas échappé à Bey. La chose était proprement affolante. La communauté des sœurs était bloquée à chaque issue, rendue presque incapable d'agir. Fermant les yeux, elle essaya de faire surgir l'image d'une honorée matriarche en chef à qui elle put s'adresser. Âgée, imbibé de pouvoir, les muscles noueux, dégageant une impression de force et de rapidité aveuglante pour laquelle elles sont réputées. Pas de visage, mais le corps ainsi évoqué demeura dans l'esprit d'Odrad. Formant muettement les mots, elle parla lentement à l'honoré matriarche sans visage.
« Il nous est difficile de vous laisser commettre vos propres erreurs. Les pédagogues ont toujours eu ce problème. Oui, nous nous considérons comme des pédagogues. Nous n'enseignons pas tant aux individus qu'à l'espèce. Nous fournissons des leçons à tous. Et si, à travers nous, vous apercevez le tyran, vous n'avez pas tout à fait tort. »
L'image dans sa tête ne fit pas de réponse.
Comment des enseignants pouvaient-ils enseigner s'ils n'avaient pas la possibilité de sortir de leur cachette? Burtzmali était mort. Le Golateg était encore quantité inconnue. Odrad sentait d'invisibles pressions converger sur le chapitre. Guère étonnant que les rectrices soient passées au vote. Une toile d'araignée enserrait la communauté des sœurs. Les fils les tenaient solidement. Et quelque part au centre de la toile, une honorée matriarche en chef, sans visage, était tapie. La reine araignée. Sa présence était révélée par les agissements de ses favorites, qu'un fil d'alarme de sa toile se met à trembler et des cohortes de guerrières se précipitaient sur les malheureuses victimes engluées avec une violence folle, sans se soucier du nombre des leurs qui périssaient ni du nombre qu'elles massacraient. Celle qui dirigeait le carnage, Odrad l'appelait la reine araignée. Correspond-elle à nos normes d'équilibre mental? Vers quel affreux péril ai-je envoyé Dortoujla? Les honorés matriarches se situaient au-delà de la simple mégalomanie. À côté d'elle, le tyran faisait figure de pirate ridicule. Leto II, lui, savait au moins ce que le Bene Gesserit avait toujours su. Comment trouver son équilibre à la pointe de l'épée tout en ayant conscience qu'on serait mortellement embroché au moindre faux pas? C'est le prix à payer quand on s'empare d'un tel pouvoir. Les honorés matriarches, ignorant cet inéluctable destin, continuaient à frapper des stocks et de tailles autour d'elle, comme un géant pris dans les affres d'une terrible hystérie. Rien ne leur avait jusque-là résisté avec le moindre commencement de succès, et elles avaient choisi de riposter par un déploiement de fureur aveugle et meurtrière. Une hystérie volontaire et délibérée. Parce que nous avons laissé notre Bachar sur Dune épuiser ses forces dérisoires en une défense suicidaire. Difficile de dire combien d'honorés matriarches il a tué.
Comme Burtzmali dans les derniers moments de l'Empada. Il est certain que les furies ont dû ressentir sa morsure.
Sans parler des mâles entraînés par Idaho que nous avons envoyés un peu partout diffuser les techniques d'asservissement sexuel des honorés matriarches. Auprès des hommes qu'elle côtoie. Cela suffisait-il à expliquer leur déchaînement de fureur? Peut-être bien. Mais des histoires bizarres circulaient sur Gameux. Teg avait-il fait montre d'un nouveau talent qui terrifiait les honorés matriarches? Si nous rétablissons la mémoire du Bachar, il conviendra de le surveiller de très près. Un non-vaisseau suffirait-il à le retenir? Qu'est-ce qui avait provoqué cette réaction violente des matriarches? Elles voulaient voir le sang couler, ne jamais accepter d'être le messager d'une mauvaise nouvelle auprès de gens comme elles. Rien d'étonnant à ce que leur sous-ordre se comporte avec une telle frénésie. Il arrive que les puissants, quand ils ont peur, mettent à mort le porteur d'une funeste nouvelle. Ne jamais jouer ce rôle. Mieux vaut mourir sur le champ de bataille. Les troupes de la reine araignée dépassaient les limites de l'arrogance, de très loin. Elles étaient au-delà du blâme. Autant reprocher à une vache de manger de l'herbe. La vache lèverait avec raison vers vous ses yeux rêveurs, comme pour demander « N'est-ce pas ce que j'étais censé faire ?» Mais si nous nous doutions des conséquences, pourquoi avoir provoqué ces femmes? Nous ne sommes pas comme celui qui donne un grand coup de bâton dans un objet tout gris, tout rond, pour constater qu'il s'agissait d'un nid de frelons. Nous savions dans quoi nous frappions. C'était le plan de Taratsa, et aucune d'entre nous ne l'a remis en question. La communauté des sœurs affrontait un adversaire dont la seule politique délibérée était la violence hystérique. Mort à l'ennemi et après nous le déluge.
Mais que se passerait-il si une douloureuse défaite était infligée aux honorés matriarches?
Sur quoi déboucherait leur hystérie? Odrad n'osait y penser. La communauté des sœurs prendrait-elle le risque d'attiser pareil incendie? Il le faut. La reine araignée allait redoubler d'efforts pour localiser le chapitre. L'escalade de la violence se poursuivrait jusqu'à un stade encore plus écœurant. Et ensuite, les honorés matriarches se mettraient-elles à soupçonner tout le monde et n'importe qui de sympathie envers le Bene Gesserit? Ne se retourneraient-elles pas contre leurs propres alliés? Envisageaient-elles de se retrouver seules dans un univers vidé de toute autre forme de vie intelligente? Le plus probable était qu'elle n'y avait même pas pensé. « À quoi ressembles-tu donc, reine araignée? Quelles idées as-tu dans la tête ?
Murbella avait dit qu'elle ne connaissait pas la commandante suprême, ni même les gradés de l'ordre de Hormeux auquel elle appartenait. Mais elle avait fourni une description intéressante du logement d'une gradée qu'elle avait visitée.
Riche d'enseignements.
Dis-moi où tu vis, dis-moi de qui tu t'entoures pour partager les menus faits quotidiens de l'existence.
La plupart d'entre nous choisissent des compagnons et un décor propre à refléter leur image.
C'est l'une de ces femmes de chambre personnelles, racontait Murbella, qui m'a fait entrer dans ses appartements privés. Elle voulait ainsi se donner de l'importance, me montrer qu'elle avait accès au Saint des Saints. La partie publique de la demeure était propre et bien rangée, mais la partie privée était dans le plus grand désordre. Du linge partout, à l'endroit même où il était tombé, des pots de crème débouchés, des lits défaits, des assiettes par terre pleines de restes en train de se dessécher. Je demandai à mon amie pourquoi on n'avait pas nettoyé ce fouillis. Elle me répondit que ce n'était pas son rayon, que celle qui devait nettoyer n'avait pas le droit d'entrer avant la tombée du soir.
Vulgarité secrète.
L'esprit de cette femme devait être à l'image du désordre où elle vivait. Les yeux d'Odrad se rouvrirent soudain, elle les fixa une fois de plus sur le tableau de Van Gogh. C'est moi qui l'ai choisi. Il faisait courir des tensions sur l'axe interminable de l'histoire humaine que la mémoire seconde n'aurait pu créer.
Tu m'as fait parvenir un message, Vincent. Et grâce à toi, je n'aurai pas à me couper l'oreille, ni à envoyer d'inutiles messages d'amour à des gens indifférents. C'est le moins que je puisse faire pour t'honorer.
La cellule où elle dormait avait une odeur familière, la senteur piquante et poivrée de l'œillet. C'était le parfum préféré d'Odrad. Son entourage veillait à le maintenir discrètement à l'arrière-plan de son odorat. De nouveau, elle ferma les yeux et ses pensées retournèrent à la reine araignée. Elle avait l'impression que l'exercice conférait une autre dimension à cette femme sans visage. Murbella avait dit un jour qu'une honorée matriarche d'un grade important n'avait qu'à commander pour qu'on exauce tous ses désirs.
N'importe lesquels ?
Murbella avait cité quelques exemples typiques, partenaire sexuel d'une grossière difformité, sucrerie écœurante, orgie émotionnelle déclenchée par des spectacles d'une violence extraordinaire. Elles sont toujours en train de rechercher les extrêmes. Des rapports d'informateurs et d'agents secrets avaient confirmé les récits presque admiratifs de Murbella.
Tout le monde pense qu'elles sont faites pour diriger.
Ces femmes sont issues d'une bureaucratie autocratique. De nombreux indices le confirmaient. Murbella parlait de leçons d'histoire où elle avait appris que les premières honorées matriarches avaient entrepris des recherches sur les moyens de s'assurer une domination sexuelle sur les populations qu'elles contrôlaient, au moment où le poids des impôts devenait menaçant pour leurs administrés.
Faites pour diriger ?
Il n'apparaissait pas à Odrad que ces femmes insistaient tellement pour posséder ce privilège. Non, elle devait présumer qu'il s'agissait là d'un droit inaliénable, jamais remis en question. Aucune de leurs décisions ne pouvait être mauvaise. Tant pis pour les conséquences, elles n'existaient pas.
Odrad se redressa soudain sur sa couche.
Elle savait qu'elle venait de découvrir l'inspiration qu'elle cherchait. Les erreurs ne peuvent pas se produire. Pour contenir cela, il fallait un subconscient vaste comme un gouffre et une toute petite partie consciente qui passait la tête pour entrevoir un univers tumultueux qu'elles avaient elles-mêmes créé.
Magnifique. Odrad fit venir son aide de nuit, une acolyte du premier degré, à qui elle demanda un thé au mélange contenant un dangereux stimulant, quelque chose qui puisse l'aider à différer le besoin de sommeil que ressentait son corps.
Mais il y aurait bien sûr un prix à payer. L'acolyte hésita avant d'obéir. Elle fut de retour quelques instants plus tard, avec un plateau où fumait une timbale. Odrad avait depuis longtemps décidé que le thé au mélange fait avec de l'eau dure et froide du chapitre avait des vertus bénéfiques sur son psychisme. Le stimulant amer la priva de cet effet rafraîchissant et empiéta sur sa conscience. La rumeur allait se répandre parmi celles qui l'observaient. Encore des soucis, des soucis, des soucis. La rectrice aurait-elle besoin d'un nouveau vote ? Elle but lentement, pour laisser à la substance le temps d'agir. La condamnée à mort refuse son dernier repas. Elle boit lentement son thé.
Elle repoussa bientôt la timbale vide et demanda qu'on lui apporte des vêtements chauds. « Je vais faire un tour au verger. » L'aide de nuit ne fit aucun commentaire. Tout le monde savait qu'elle avait l'habitude d'y aller souvent, même en pleine nuit. Quelques minutes plus tard, Odrade se retrouva sur l'étroit sentier bordé de clôtures qui conduisait à son verger favori. Elle s'éclairait à l'aide d'un mini-globe fixé à une cordelette sur son épaule droite. Quelques vaches noires s'approchèrent de la clôture pour la regarder passer. Elle baissa les yeux vers leurs mufles luisants, sentit la riche odeur de luzerne dans leur haleine et s'arrêta un instant. Les vaches reniflèrent et reconnurent les phéromones qui lui servaient de sauve-conduit. Elles retournèrent manger le fourrage entassé par les pâtres au pied de la clôture. Tournant le dos aux bêtes, Odrade regarda les arbres nus de l'autre côté du pâturage. Son mini-globe émettait un halo de lumière jaune qui accentuait les contrastes de l'hiver. Peu nombreux étaient ceux qui comprenaient pourquoi cet endroit l'attirait. Il ne suffisait pas de dire que ses inquiétudes y trouvaient un apaisement, même en plein hiver, alors que le sol gelé craquait sous ses pas. Ce verger était un havre de silence chèrement payé entre deux tempêtes. Elle éteignit son mini-globe et laissa ses pieds trouver le chemin familier dans l'obscurité. De temps à autre, elle levait la tête vers la lueur des étoiles filigranées de branches nues. Les tempêtes. Elle pressentait l'approche d'une tempête qu'aucun météorologiste n'aurait pu annoncer. La tempête engendrera la tempête. La fureur engendrera la fureur. La vengeance engendrera la vengeance. La guerre engendrera la guerre. Le vieux Bachar était passé maître dans l'art de briser ses cercles. Son Gola aurait-il le même talent? C'était un jeu très dangereux. Odrade se tourna de nouveau vers les vaches, masse sombre en mouvement d'où montaient de fines vapeurs éclairées par la lumière stellaire. Elles se serraient les unes contre les autres pour se tenir au chaud, et le bruit qu'elles faisaient en ruminant était familier à Odrade. « Il faut que j'aille dans le désert du sud, que j'y retrouve, Chiana. Les truites prospèrent. »
Pourquoi n'y a-t-il pas de vers des sables ?
Elle s'adressa à haute voix aux vaches serrées contre la clôture.
« Ruminez bien votre fourrage, c'est ce qu'on attend de vous. »
Si les chiens de garde qui l'épiaient tombaient sur cette remarque, elle aurait fort à faire pour s'expliquer.
« Mais cette nuit, j'ai vu à travers le cœur de nos ennemis, et j'ai pitié d'elle. »